Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Okapi Service en direct de l'Alliance française de Kisangani. Encore une fois, sous vos applaudissements, merci d'applaudir très 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 fort. Et merci d'être venu participer à ce programme spécial Okapi Service à l'occasion du sommet de la francophonie. Nous sommes à Kisangani, à l'Alliance française. Et merci d'être là nombreux pour participer à ce programme. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la francophonie. Quelles sont les opportunités que la francophonie offre aux jeunes, à la population de la province de la Tchopo? Nous allons en discuter, échanger tout à l'heure avec le professeur Alphonse Maindo, qui est enseignant à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kisangani. Et nous allons également avoir des échanges avec Dr Sébastien Etongo, qui est le directeur de l'Alliance française des Kisangani. Et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons échanger autour de l'importance de la RN4, la route nationale 4 qui relie Kisangani à Bunia. Des questions et préoccupations, eh bien, vous êtes là. N'hésitez pas à poser vos questions à nos différents intervenants. Toute l'équipe de production est là. Nous avons Debs Vita qui a la technique, Chimanga Clément qui assure la retransmission live sur Facebook, Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation, Gisèle Cage est avec nous, André Kitenge au micro, Jody Daniel Kachama, et merci d'être venu encore une fois sous vos applaudissements.
Connaissez-vous la Mpox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de Mpox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la Mpox s'est faite à travers des lésions, voire plaies, des liquides organiques comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de Mpox et le rapport sexuel avec une personne malade de Mpox. Pour nous protéger contre la Mpox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de Mpox et éviter tout contact avec les objets souillés par de malades de Mpox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151. Adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission spéciale au Okapi Service en direct de Kisangani. Buyoma Singamwambi. On m'a dit tout à l'heure que Kisangani inapita Bulaya. Ça veut dire qu'ici fait bon vivre, plus qu'en Europe. Alors, on va parler de la francophonie. Vous savez, actuellement, qu'il se tient le sommet, le 19e sommet de la francophonie en France. À l'occasion, nous sommes à Kisangani pour parler des opportunités que la francophonie offre à la population boyomaise, aux jeunes gens. Est-ce qu'il y a, quelles sont les opportunités qu'on peut avoir avec la francophonie? Alors, je vais adresser la parole au directeur de l'Alliance française de Kisangani, docteur Sébastien Etongo. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Alors, parlez-nous un peu de ce sommet de la francophonie, le 19e, je pense. Alors, ça tourne autour de quoi? Et qu'est-ce que Kisangani aujourd'hui peut, ou la province en général, peut tirer, comment la province peut tirer profit de la francophonie, je veux dire?
Merci beaucoup. Je voudrais solliciter votre indulgence pour remercier d'abord les participants. Je sais que c'est une journée ouvrable, vous devriez être au service, mais vous avez répondu à cette invitation. Ça atteste de manière indéfectible l'intérêt que vous avez accordé à cette émission. Je voudrais que vous puissiez acclamer pour vous-même. Je voudrais également remercier les services de coopération et action culturelle de l'ambassade de France, représentés par Madame Laurence Paris et Monsieur Jean-Pierre, pour l'occasion qui a été offerte au public boyomain de suivre pour une première fois en 2024 l'émission Okapi Service ici, en prélude, bien sûr, du sommet de la francophonie qui se tient actuellement à Paris. Je voudrais signifier que l'Organisation internationale de la francophonie, c'est une organisation qui rassemble 88 États. Ça a été créé le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger. Et c'est une organisation à caractère culturel et c'est une organisation qui prône les valeurs de la paix, de la démocratie. Mais la RDC, notre pays, est également membre de cette organisation. Donc c'est une fierté d'appartenir à cette famille. Et la francophonie prône également l'émergence culturelle. Et je pourrais peut-être, avec votre autorisation, passer la parole au professeur Maïndo, que je respecte beaucoup, c'est le maître, et qui pourra parler avec beaucoup plus de détails de la francophonie, mais c'est jeudi.
Merci beaucoup, professeur, docteur Sébastien. Professeur, merci de prendre votre micro. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, professeur, dans cette émission. Professeur Alphonse Maïndo, vous êtes enseignant à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kisangani. Et vous avez également évolué longtemps dans les secteurs de la francophonie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la francophonie? Que représente cette organisation pour la RDC aujourd'hui?
Alors, je pense que si on regarde la francophonie, il y a quelques chiffres importants à retenir. Il y a déjà certains que le directeur a évoqué ici, c'est 88 États et gouvernements. C'est aussi 321 millions de gens qui parlent la langue française. Et nous avons et cette langue française, elle est parlée dans 112 pays, mais il n'y a que 88 qui sont membres. Et c'est aussi, si vous voulez, une organisation qui vise à promouvoir, on l'a dit ici, la langue française, certes, mais surtout la diversité culturelle. C'est important à savoir, puisqu'on est tous, on parle la langue française, mais on a des cultures différentes. Il y a les Lokélé, il y a les Mbolé, il y a les Bretons, il y a les Alsaciens, il y a les Québécois, mais chacun a sa culture, mais qu'il faut promouvoir au sein de cette organisation. Mais la francophonie, c'est également la promotion, ce que peu de gens peut-être le savent, c'est également la promotion de la paix, la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Voyez-vous? Et c'est très important, c'est pour ça que vous voyez que il y a une assemblée, il y a une association de parlementaires de la francophonie qui s'est réunie régulièrement pour pouvoir parler justement de comment les parlementaires de nos États qui parlent la langue française peuvent collaborer pour consolider les démocraties et promouvoir les droits de l'homme dans nos États. Alors, mais il y a aussi ce que je pourrais dire également, la francophonie, c'est aussi appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et c'est pour ça que vous avez vous avez par exemple l'Agence universitaire de la francophonie, par exemple, qui appuie énormément des universitaires pour aller faire des recherches et des enseignements dans la langue française. Il y a des bourses d'excellence qui sont accordées aux gens. Moi-même, j'ai pu avoir une bourse d'excellence de la francophonie en 2004 après ma thèse. Et ça m'a permis de faire un post-doc à l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé pour une année. Et je crois que beaucoup d'autres jeunes gens profitent de cela. Mais il y a aussi, dans le cadre de la coopération universitaire, il y a également les campus numériques. Et nous, ici, à Kisangani, nous avons eu, il y a quelques années de ça, quand j'étais à la coopération de l'université, nous avions initié avec la coopération française et l'AUF, les campus numériques de l'université de Kisangani. Alors, mais qui a commencé, oui. Et malheureusement, il y a quelques difficultés, je ne veux pas revenir sur ça ici, mais c'est une initiative que nous avions prise ici pour pouvoir faire bénéficier les jeunes gens de Kisangani de ce que c'est la francophonie. Alors, donc, je pourrais m'étendre à l'infini sur ce qu'on pourrait avoir de la francophonie, mais je voudrais simplement souligner ici que le français, c'est la langue la plus, si vous voulez, c'est la langue la plus répandue et la plus enseignée, voyez-vous, après l'anglais. Et donc, c'est quand même important. Et pour ceux qui...
Et la RDC parmi les pays qui oui. a plus de locuteurs.
Oui. Bon, la RDC est parmi les pays qui ont le plus de locuteurs, mais nous sommes deuxième après la France. Contrairement à ce que les gens pensent, hein, nous sommes plus nombreux que les Français, mais il n'y a pas tous les Congolais qui parlent français. Et donc, il y a un certain nombre de Congolais qui parlent pas français, donc on ne les compte pas comme les francophones. Donc nous sommes, les Français, ils sont plus nombreux que nous, 65 millions, et nous on est autour de 40 quelques millions de gens qui parlent français. voilà, qui peuvent parler au quotidien ou occasionnellement. Voilà.
Voilà, il semble que la francophonie offre aussi des opportunités de formation à distance, les MOOC. Il y a un programme qui s'appelle comme ça. Professeur, ici, comment ça se passe à Kisangani avec ce programme-là?
Alors, donc ici, les poussées concernent les formations à distance. D'abord, normalement, les campus numériques ou les campus France, ça devrait aider à faire ça. Ici, il y a eu pour avoir des formations, mais aussi pour avoir accès pour aller étudier dans des universités françaises avec le soutien de la coopération française. Et les gens peuvent suivre ces formations-là. Mais maintenant, la difficulté que les gens rencontrent ici à Kisangani, c'est d'abord la difficulté de l'accès à l'Internet. Vous voyez, nous avons un Internet ici qui est un débit qui est très faible et est très difficile de suivre des cours en ligne, et ce qui décourage pas mal de gens à pouvoir suivre ça. Mais sinon, les gens ont la possibilité.
Il n'y a pas assez de fournisseurs d'Internet dans la région?
Si, on a les trois compagnies de téléphonie mobile qui fournissent l'accès à Internet, donc Orange, Vodacom et Airtel. Mais c'est comme si il y a une espèce de sursaturation de leur système, et ça fonctionne une fois sur deux. Et donc, pour avoir vraiment une connexion haut débit qui vous permette d'accéder à tous les cours en ligne. Alors, mais il y a aussi d'autres fournisseurs qui sont là uniquement pour ça, notamment Microcom ou GlobalNet, mais qui sont aussi un peu problématiques. Et ça demande, je crois qu'il y a besoin d'investir ici. Et l'autre fois, il y a eu même de mécanismes pour vouloir dire il faut demander aux autorités de faire la pression sur les fournisseurs de services Internet, parce que les gens perdent énormément d'argent. Vous payez votre connexion de forfait de débit, mais vous finissez les débits comme c'est pour 3 jours ou 1 mois, mais vous finissez ça, vous n'avez pas fini ça, oui. Votre argent est perdu.
Et il est difficile de suivre les cours à distance sans une bonne connexion Internet.
Non, c'est très difficile. Et il y a eu un moment ici quand l'alliance était encore ouverte, parce qu'ils avaient fermé pour travaux de rénovation, après ils ont rouvert, les gens pouvaient aussi venir ici pour pouvoir travailler profiter de l'accès Internet de l'alliance ici. Oui. Bon, je crois que maintenant ça doit revenir, je pense, pour que les gens puissent pouvoir accéder à ces facilités.
Docteur Sébastien, quelles sont les différentes activités que vous organisez ici à l'alliance et qui peuvent profiter à la population?
Merci beaucoup. Je voudrais que les auditeurs comprennent d'abord le concept de l'Alliance française. Les alliances françaises à travers le monde, ce sont les associations sans but lucratif répandues dans 137 pays, y compris l'Alliance française de Kisangani. Ce sont des associations de droit local, à la différence des instituts français, et ça regroupe les hommes qui aiment la culture. Et sa mission principale ou régalienne, c'est bien entendu l'organisation de l'enseignement du français à tout le public, mais également la promotion des activités culturelles. Alors, celle de Kisangani avait fermé il y a une année compte tenu de plusieurs questions de fonctionnement, mais avec les plaidoyers menés par le conseil d'administration de l'Alliance française, actuellement chapeauté par M. Didier Lomoyo, qu'on a vu tout à l'heure, le vice-gouverneur de la province, ainsi que la société civile. Là, je voudrais saluer en tout cas la présence de plusieurs membres de la société civile, parce que c'est un ancrage. L'Alliance française de Kisangani jouit d'un ancrage territorial. Ça offre l'opportunité, en tout cas, aux jeunes de pouvoir se développer. Notre mission principale, c'est l'enseignement du français, la promotion des activités culturelles, mais également, nous organisons aussi le cours d'informatique. Vous savez, vous avez parlé tout de suite là de l'OIF. Qu'est-ce que ça peut offrir comme opportunité aux jeunes? Vous savez, à Kisangani, on a des jeunes qui disposent du talent, mais ils doivent se renseigner auprès des sites de l'OIF. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a des bourses qu'on est en train de mettre en ligne pour des résidences artistiques. Vous soumettez votre dossier, si le dossier il est éligible.
Les artistes de Kisangani peuvent se retrouver peuvent en également France avec d'autres artistes pour les échanges,
exactement. Il existe des structures ici qui sont en train de soutenir en tout cas l'émergence de les activités culturelles. Je salue par exemple le groupe Taxem, c'est dont je vois le responsable dans la salle. Il y a également une structure qui s'appelle Studio Kabako, chapeauté par M. Faustel Nyekula, mais surtout l'Alliance française. Pour l'histoire, plusieurs ont émergé à travers l'Alliance française de Kisangani. Vous connaissez Barly, par exemple, n'est-ce pas, c'est bédéiste qui fait la renommée, en tout cas, en Belgique. Bon. Et au-delà de nos missions régaliennes, mais il y avait également à Kisangani le dispositif Campus France. Campus France, c'est une agence de l'État français qui a été créée par la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État, dont la mission principale était l'accompagnement des étudiants pour aller en France faire les études universitaires. Et il existe même un réseau des étudiants qui ont étudié en France. Je crois que le professeur Alphonse connaît France Alumni. Donc, on a des jeunes qui ont bénéficié de cette opportunité d'aller en France pour faire les études ici à Kisangani. Donc, le plaidoyer, c'est que l'on puisse encore rouvrir cette antenne de Campus France à Kisangani qui a été fermée. Donc, ça, c'est le service de coopération et action culturelle. Voilà un peu, de manière résumée, les activités que nous organisons ici à l'Alliance française de Kisangani.
Bien, sous vos applaudissements au Capi Service. Nous sommes en direct de l'Alliance française de Kisangani et nous échangeons aujourd'hui sur les opportunités qu'offre la francophonie à la jeunesse, à la population boyomaise en général. Alors, on va recueillir rapidement des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent déjà s'exprimer? Tati Mapoukou va faire circuler les micros. Vous allez juste vous présenter et puis passer directement à la question. Bonjour, monsieur.
Bonjour, messieurs. Merci beaucoup pour la parole accordée et également pour votre présence ici à Kisangani. Nous, c'est Fabrice Debo. Nous sommes coordonnateur provincial du Parlement des enfants et jeunes, mais également président de l'Assemblée provinciale citoyenne de la province de la Tchopo. J'ai suivi le professeur Alphonse Maindo. Il a dit la francophonie a également comme mission de promouvoir la paix. Alors, ma question serait de savoir quel est l'apport de la francophonie dans le processus de la paix, notamment autour des conflits que la Tchopo venait d'enregistrer. Quel est l'apport de cette francophonie? Alors, ma question s'adresse à M. Sébastien. Il a également salué la présence de la société civile dans ces beaux cadres. Nous les remercions également. Mais permettez-moi, M. le directeur, nous, société civile, nous avons du mal à occuper cette salle. Alors, je ne sais pas quelles sont les conditions exactes pour occuper cette salle. Puisque nous sommes société civile, nous n'avons pas assez de moyens. Nous n'avons pas également l'accompagnement du gouvernement provincial. Alors, pour occuper ces cadres, nous peinons beaucoup. Des fois, il y a des activités reportées. Bon, je ne sais pas s'il peut nous éclairer, si on doit payer, combien. Bon, parce qu'il a dit ils sont là pour promouvoir les activités culturelles. Mais nous avons du mal à occuper ces cadres alors que nous faisons des activités culturelles, éducatives. Je ne sais pas s'il peut profiter de cette occasion pour nous répondre en public, ce qui nous permettrait également de commencer à occuper, pourquoi pas gratuitement, ces cadres. Merci beaucoup.
Merci bien. Deuxième question. Deuxième intervenant. Bonjour, monsieur. On va prendre une série de... Il reste trois questions. Série de cinq, et puis les intervenants vont répondre. Bonjour.
Bonjour, je suis Victor Bouanga Ikelemba, Loli Kile.
Merci de rapprocher le micro, voilà.
Merci. Je voudrais commencer d'abord à donner, à émettre une observation sur une observation personnelle sur la francophonie. Et là, je vais devoir aussi citer pour poser une question à Monsieur le professeur Alphonse Maindo. De toutes les façons, j'ai suivi le professeur Lachey pour dire que la francophonie favorise la diversité culturelle. Et par ricochet, elle a la possibilité aussi de promouvoir la démocratie. En ce qui concerne la première alternative de l'intervention de monsieur le professeur, moi je dis ceci, non. La francophonie ne favorise pas la diversité culturelle. La francophonie est une sorte de colonisation de de cultures africaines.
Pourquoi vous dites ça?
Je m'explique.
Merci de rapprocher le micro.
Je m'explique.
Oui, allez-y.
Je pense bien que s'il y avait une sorte de diversité culturelle, on pouvait avoir aussi une autre personne qui pouvait parler en lingala devant là-bas, ou qui pouvait aussi s'exprimer en shwaïl, pour avoir vraiment la diversité culturelle. Or, la francophonie est en train de tuer les cultures africaines. Les cultures africaines sont étouffées et les cultures africaines sont en train de disparaître à petit feu. En ce qui concerne la démocratie, je dis non. La francophonie est en train de favoriser l'acculturation, la néocolonisation. C'est-à-dire, quand la France vient quelque part avec sa démocratie, la France vient pour piller. La France vient pour essayer de paupériser.
D'accord. Pour vous, on comprend bien, pour vous, la francophonie ne fait pas la promotion de la diversité culturelle, mais c'est tout simplement le néocolonialisme.
Voilà.
C'est la France qui vient nous imposer sa culture.
Sa culture.
D'accord.
Alors, la question.
La question.
Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez, à votre dialecte, nous donner l'explication des demi-frères,
ah.
À votre dialecte, demi-frères.
Ah bon?
Oui.
Mais je pense que le professeur doit connaître ça. Hein.
Monsieur le professeur.
Deuxième question, rapidement, on va passer à quelqu'un d'autre.
Avec tout le respect et humilité,
oui.
Monsieur le professeur, la francophonie, c'est le sous-développement. Et à cette préoccupation, si vous pouvez me répondre en lingala, merci.
En tout cas, aujourd'hui, on va parler en français, en lingala, peut-être en swahili aussi. Bien, troisième question, bonjour.
Bonjour, je suis Lydia Kalongi, chargée de communication de l'INPP Tchopo. Alors, ma question est de savoir comment la francophonie défend-elle ses valeurs dans un monde de plus en plus dominé par l'anglophonie. Voilà, c'est tout.
Bien, Tati, là, c'est la quantième question. Quatrième, on prend la dernière de cette première série. Et ensuite, les intervenants vont répondre. Bonjour, monsieur.
Bonjour. Moi, c'est monsieur Alphonse Iguangozi. Je suis très content d'intervention de mon prédécesseur ici parce que je suis africaniste de formation. La francophonie en soi nous amène la glottophagie. Et cela se vérifie à la cité. On trouve un enfant...
Pardon, elle nous amène quoi?
Nous amène la glottophagie.
C'est quoi?
C'est-à-dire, c'est une langue qui cherche à faire disparaître d'autres langues. Et je m'en vais à éclairer ça, dans la mesure où même nos étudiants, on est avec un étudiant premier gradué à deuxième, il ne sait pas parler swahili, ni lingala, ni kikongo, ni chuluba, et il s'est dit congolais. Mais il parle couramment français. Ça, c'est de un. De deux, quand vous nous parlez de développement culturel, le professeur lui-même, en disant qu'il y a diversité culturelle à Tchopo, il n'a pas énuméré, il n'a pas cité les ayants droit, les autochtones, les premiers autochtones de la ville de Kisangani. C'est que lui-même aussi ne maîtrise pas la culture de Kisangani. Merci beaucoup.
Bien, merci. On termine avec la première série.
Oui.
D'accord, bonjour madame.
Bonjour, je suis Marie-Thérèse Bossambi, du club RFI. Ma question s'adresse à Monsieur Sébastien. La dernière fois, nous avons vu que l'Alliance française était fermée pour que ça devienne l'Institut français. Mais nous n'avons plus compris, lorsqu'ils ont repris les activités, ils ont seulement repris comme Alliance française. Or, si c'était devenu Institut français, ça allait aider le jeune à découvrir beaucoup d'opportunités et beaucoup de financements. Et c'est la question de savoir pourquoi nous sommes toujours revenus comme Alliance française qui est Institut français. Merci.
Merci pour toutes ces questions, cette première série de questions. Professeur Alphonse Maindo, vous avez la parole.
Bien, merci beaucoup.
Alors, je m'amusais beaucoup en écoutant certaines de ces questions ici.
Demi-frère en votre...
Demi-frère dans ma dialecte. Donc
en dialecte.
C'est vraiment... Bon, disons que lorsqu'on parle de la promotion de la paix ou de la promotion de la démocratie et de la... pour qu'il y ait une convivialité, que les gens vivent en harmonie, ça ne veut pas dire que c'est réalisé complètement à 100%. C'est un peu, c'est le travail d'éducation, c'est le travail de socialisation, d'intériorisation d'un certain nombre de valeurs qui permettent aux gens de pouvoir vivre ensemble. Et comme vous le savez, ce type de travail, c'est un travail de longue haleine. C'est un peu comme l'évangile. Et ça fait aujourd'hui plus de 2000 ans qu'on nous apprend à aimer notre prochain, de ne pas aimer la femme d'autrui, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, mais et toujours, il y a toujours et toujours, même ceux qui prêchent cette bonne nouvelle-là, sont en train de violer cette bonne nouvelle. On connaît des pasteurs, des prêtres, des évêques qui violent ces dispositions-là. Voyez-vous, donc vous ne pouvez pas, on ne peut pas à partir de là pour contester, si vous voulez, l'institution religieuse pour dire qu'elle ne fait pas, qu'elle n'est pas en train de travailler pour l'amour du prochain, pour le salut des hommes. Donc, c'est ce que je voudrais préciser. Maintenant, lorsque je sais aussi que dans la francophonie, on a des États qui sont à différents niveaux. Il y a différents niveaux de gouvernance, de démocratie et autres. On a différents types de régimes. On a des régimes autoritaires, on a des régimes même qui sont, j'allais dire, qui sont même sultaniques au sens où c'est vraiment un autoritarisme très dur. Vous avez aussi des démocraties dedans. Et vous avez plusieurs types de régimes. Et donc, mais justement, la francophonie veut faire en sorte que tout le monde évolue vers des régimes politiques qui permettent effectivement de garantir les droits humains, de garantir l'expression et la participation populaire. Même si ce n'est pas vraiment le cas, parce que, comme toute autre organisation, il y a des intérêts des uns et des autres qu'il faut faire avec, et on ne peut pas venir décréter une démocratisation ou des valeurs à coups de bâton ou à coups de fusil, tout ça. C'est un travail sur l'intellect. Voyez-vous, donc, il demande donc du temps. Alors maintenant, en ce qui concerne les membres de la francophonie, il y a tellement de problèmes à travers la francophonie. L'OIF ne peut pas s'occuper de tous les petits problèmes, les conflits
de chaque État.
De chaque État, il y a là les Mbole et les Lengola qui se battent. Là, l'OIF vient. Il y a là les Kumu et les autres qui se disputent les terres autour de Kisangani. L'OIF vient. Finalement, l'OIF ne pourrait plus fonctionner. Et c'est pour ça que, de manière globale, l'OIF essaie d'aider les États membres à pouvoir assurer une bonne gouvernance, parce que la plupart des conflits intérieurs que nous avons, c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance. C'est parce qu'il y a un problème d'État qui est incapable. Et donc, il y a des missions d'appui. Et l'OIF appuie, par exemple, avec des missions d'observation électorale, y compris pour appuyer les gens à regarder est-ce que les fichiers sont bons ou quoi, est-ce que les critères de démocratie sont remplis ou pas. Mais ça reste des recommandations, puisque l'OIF n'a pas un gouvernement qui puisse imposer ses recommandations aux États membres.
Mais certains pensent que l'OIF, c'est tout simplement venir nous imposer la culture française. Ce n'est pas pour la diversité, pour faire la promotion de la diversité culturelle.
Oui, alors, donc, c'est ce que j'allais dire ici, que l'OIF ne vient pas pour imposer la culture française. Et je disais, lorsque la culture, c'est quoi, finalement? Si vous, moi, j'aime bien la définition de gercienne de la culture, Clifford Geertz, qui est un anthropologue britannique. Il dit que la culture, c'est un ensemble de significations que les acteurs connaissent et utilisent dans leurs échanges au quotidien. Et donc, si on comprend ça, qu'est-ce que c'est que la culture que la France nous impose ici? La France ne nous impose pas. À qui est-ce qu'on demande ici de manger du fromage avec avec du pain baguette, avec je sais pas. Mais tout à l'heure, j'ai suivi ici.
Hein? Lituma.
Tout à l'heure, j'ai suivi ici. Jordi, il est venu. Là, on lui a dit que Kisangani inapita Boulaya, et il s'est délecté de l'ituma avec du poisson frais, le mboto, j'imagine. Il n'a pas mangé du fromage au beurre ici, voyez-vous. Donc, on ne peut pas dire ça. Je crois que qu'il faut sortir un peu de ces discours de certains dirigeants politiques qui veulent nous faire croire que la francophonie, c'est les néocolonialismes.
Ce n'est pas les néocolonialismes.
Tout ça, etc. Pourquoi? Parce que lorsque ces dirigeants-là utilisent ces discours néocolonialisme, lorsque l'organisation comme l'OIF ou d'autres commencent à leur rappeler leurs obligations en tant que dirigeants pour s'occuper de leurs citoyens, de leur faire bouger ça, non? Ingérence, non, néocolonialisme, impérialisme. Mais lorsque on les aide pour leur donner des fonds qui vont détourner à gauche, à droite, là, ils ne parlent pas de néocolonialisme. Voyez-vous? Et donc, c'est un discours variable. Et c'est inadmissible, je pense, que ouais, qu'on puisse aller dans ça.
Alors, d'accord. Professeur, avant de répondre aux autres questions, je donne la parole au docteur Sébastien Etongo. Il y a des questions qui vous ont été adressées. Par exemple, vous avez fermé un moment. On pensait que ça, vous allez introduire, je pense, Campus France ou devenir Institut français. Pourquoi il n'y a pas eu ces changements?
Merci, j'ai retenu des questions des auditeurs, mais je voudrais aller dans la même logique que les professeurs. Je pense que notre auditeur, M. Victor, devrait comprendre que la francophonie ne vient pas briser nos cultures. C'est une complémentarité. Déjà, lorsque vous arrivez en France, même dans d'autres pays, il y a des centres où on enseigne les Swahili. Moi, j'ai suivi en France les cours de Lokélé. Ça existe.
En France.
Donc, en France, vous pouvez demander des cours de Lokélé, les cours de Swahili en ligne, ça existe. Donc, on parle aussi nos langues là-bas. Et l'idée, c'est justement cette collaboration. Le professeur a signifié, il faut s'écarter de ces concepts-là de nos dirigeants politiques. N'est-ce pas? Qui voudraient en tout cas essayer de changer cette conception. La francophonie ne brise pas en tout cas nos cultures. Et d'ailleurs, la francophonie ne regroupe pas seulement les pays anglophones. Il existe des pays lusophones, il existe aussi des pays anglophones et au sein de cette organisation. Donc, ce qui est important, c'est de savoir conserver ces valeurs, comment promouvoir les valeurs pour notre développement. La question m'a été posée par notre ami de la société civile, les conditions pour occuper la salle de l'Alliance française. Je voudrais vous signifier que nous sommes une association sans but lucratif. L'Alliance française n'est pas un établissement commercial. Nous, notre objectif, ce n'est pas de faire de l'argent. Nous sommes en train de donner gratuitement notre salle. Lorsque vous nous adressez une correspondance, on essaie d'analyser, n'est-ce pas, les motifs de l'occupation de cette salle. Si ce sont des sujets en rapport avec les questions, les défis, en rapport avec la société, n'est-ce pas, les valeurs de la paix, la démocratie, les culturels, on vous donne la salle gratuitement. Mais si c'est pour une organisation à caractère politique, là, on n'a pas obtenu les quittus pour donner notre salle. Donc, ayez vos apaisements, rédigez votre correspondance et puis, les jours où vous souhaitez occuper cette salle, je vous donnerai gratuitement devant les auditeurs. Merci. Alors, oui, gratuitement, en tout cas.
Gratuitement.
On s'adresse au directeur de l'Alliance française de Kisangani. Et il y a aussi d'autres organisations qui ont déjà bénéficié de cette salle gratuitement. Et je peux citer nos amis des clubs RFI. Donc, il n'y a pas de... Nous, on ne fait pas de l'argent ici. Voilà. Donc, c'est question de nous écrire. Et si c'est une thématique qui cadre avec la société civile, les sujets en rapport avec la démocratie, la paix, les culturels, les échanges, conférences, débats d'idées, pas de questions politiques. Pourquoi? Parce que nous, on est apolitique. Voilà. La deuxième question.
Bien, il y a une autre question. Pourquoi vous avez fermé un moment, vous avez réouvert, mais vous restez Alliance au lieu de migrer, de devenir Institut français?
Très belle question. Je savais que les auditeurs allaient poser cette question. Comme j'ai dit tantôt, les alliances françaises à travers le monde, il y en a quand même plus de 800 et qui existent et ils ont des valeurs. Alors, l'objectif ou soit nos missions régaliennes, c'est d'abord organiser l'enseignement de la langue française à tous les publics, mais aussi assurer la promotion des activités culturelles. Nous offrons notre espace ici gratuitement pour les jeunes artistes qui évoluent. Et nous fonctionnons sur base de cotisation de nos adhérents. Donc là, vous pouvez prendre votre adhésion pour devenir membre de l'Alliance française de Kisangani et postuler devenir même membre du conseil d'administration. Et nous vivons également grâce à des petites activités que nous organisons, entre autres le cours des français. Et bien que ça ne paye pas beaucoup, mais surtout avec le soutien des services de coopération et action culturelle de l'ambassade de France, nous fonctionnons.
À un certain est-ce qu'ils moment, sont nombreux ceux qui viennent apprendre le français ici?
Pardon?
Est-ce qu'ils sont nombreux ceux qui viennent apprendre le français?
Ils sont comment?
Nombreux.
Est-ce que beaucoup de gens sont bien? Voilà, je pourrais dire qu'on a une moyenne de 80 à 90 apprenants par session. Donc l'effectif est encore faible, parce que si vous partez dans d'autres pays, ou en Bolivie, en Espagne, vous trouvez dans une alliance française, on a 1000, 2000, 3000 apprenants. Donc ici, il y a quand même une baisse en termes d'effectifs des apprenants. Donc là, je voudrais lancer l'appel, n'est-ce pas, à toute personne qui voudrait apprendre ou améliorer le niveau du français, en tout cas l'opérateur ou l'interlocuteur, c'est l'Alliance française de Kisangani. Bon, pourquoi on n'est pas passé institut français? Mais à vrai dire, les instituts français avec les alliances françaises, ils ont pratiquement les mêmes missions. À la seule différence, c'est que les instituts français, ce sont les établissements des droits français placés sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, et ils bénéficient peut-être de beaucoup plus de subventions par rapport à l'Alliance française. Mais nous avons pratiquement les mêmes missions. Nous prenons tout simplement la promotion et la diffusion de la langue française. Bon, le projet était qu'on puisse transformer cette alliance à une antenne de l'Institut français, mais on se rend compte que ce n'est pas pertinent. Pourquoi? Parce que déjà, si vous êtes à Goma, il existe une antenne de l'Institut français, à Bukavu également, et encore à Kisangani, le consulat a estimé, l'ambassade a estimé, c'est peut-être de trop. Comme l'Alliance française de Kisangani est en train de fonctionner déjà de manière optimale, là, on a changé un peu la politique de fonctionnement. Il y avait toujours un accompagnement des directeurs expatriés des Français, mais du coup, l'ambassade a souhaité à ce que nous puissions gérer notre institution nous-mêmes, les Congolais. Voilà pourquoi nous sommes là. On est en train de se battre justement pour le rayonnement et la renaissance de cette alliance.
Merci. Bien, merci professeur Alphonse Maindo. Il y a une question par rapport à l'influence de l'anglais aujourd'hui. On voit l'anglais en train de s'étendre et de menacer le français, on dirait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Alors, il faut savoir que pourquoi l'anglais prend autant de... L'anglais a réussi à s'imposer comme la langue de communication dans les relations internationales. Mais ne perdons pas de vue que le français, c'est deuxième langue dans les relations internationales, dans les organisations internationales. Mais si on regarde l'histoire, l'espagnol aussi a eu un moment de gloire et tout ça, et vous allez plus loin, le français, c'était la langue de toutes les aristocraties occidentales, et les gens quittaient toute l'Europe, la Russie, l'Allemagne, tout ça, et ils allaient à Paris pour apprendre le français, c'était la langue de l'élite. Mais après, il y a eu, si vous voulez, cette montée de l'anglophonie, si on peut dire ça comme ça, grâce à l'Empire britannique, qui avait qui avait vraiment beaucoup de d'États à travers le monde, donc qui avait une plus grande capacité de contrôle des mers et des territoires, ce qui a augmenté son influence. Maintenant, ce que le français fait, c'est quoi? C'est comme toute langue, elle est donc vivante, elle s'enrichit. En même temps, elle enrichit aussi d'autres langues. Et si vous regardez, il y a certains mots français qu'on retrouve aujourd'hui en anglais. Par exemple, fiancé, c'est un mot qui est utilisé aussi en anglais. Oui. Et donc, il y a mais vous avez aussi des mots d'anglais qui viennent en français, football et autres, tout ça. Mais tout comme nous avons également des mots d'autres langues, nos propres langues qui sont en train d'être introduits en français. Il y a donc des enrichissements mutuels de ces langues-là. Donc pour moi, je n'ai pas peur par rapport à la disparition de la langue française ou quoi. Et je pense que la langue française va continuer à vivre, va évoluer, et comme tout être vivant, donc si vous voulez, ça apprend et ça se pratique. Et le fait que vous avez, il y a à peu près 144 millions de personnes qui apprennent la langue française chaque année dans le monde. Donc ça signifie que on n'est pas encore la langue française est toujours en train de se reprendre. Et je vous ai dit que c'est la langue la plus enseignée et la plus répandue après l'anglais. Donc c'est la deuxième langue en termes d'enseignement.
Et donc, voilà, comment alors faire promouvoir en même temps le français et nos langues nationales? Le Swahili, le Kikongo, le Chiluba, certains ont parlé même de l'Okele ici. Qu'est-ce qu'on peut, quelle politique mettre en place, professeur?
Alors, mais je pense que la politique la plus simple, c'est ce qu'on avait déjà à une certaine époque, c'était de dire, voilà, nous avons ici, dans ces pays, quatre aires culturelles. On a l'aire du Chiluba, du Kikongo, de Lingala et du Swahili. Et donc, les enfants, quand ils commencent l'école fondamentale, l'école primaire, ils apprennent en swahili. Nous avons appris ici à Kisangani, à l'école primaire en swahili. Donc, on apprenait les choses en swahili. Et donc, après, progressivement, on commence à introduire le français, ce qui vous permet d'avoir maintenant d'autres. Parce qu'il y a des matières, il y a des choses qu'il est difficile de pouvoir faire en français, disons en swahili ou en lingala, à cause justement des coûts que cela représente pour traduire tous les manuels et tout ça, pour communiquer la science avec d'autres pays. Il y a l'exemple d'un pays comme la Tanzanie, notre voisine ici. Elle avait, sous l'inspiration de Julius Nyerere, introduit le swahili comme l'unique langue pour apprendre de la maternelle à l'université. Mais ils ont buté. Et lui-même, qui était par exemple un féru, si vous voulez, amateur de Shakespeare, donc il a traduit toutes les œuvres de Shakespeare en swahili pour lui permettre de partager cette, si vous voulez, cette poésie, cette richesse culturelle de Shakespeare avec son peuple. Mais vous connaissez la suite, ça n'a pas marché parce que le coût des traductions de toutes les formules de mathématiques, de chimie, tout ça,
ça coûte
en swahili, oui. C'est énorme, ça ne pouvait pas suivre. Et donc il faut essayer de faire en sorte que les gens apprennent. À la maison, les parents devraient pouvoir parler aux enfants dans leur langue. Il n'y a pas que nos swahili, les swahili, les lingala et tout ça qu'il faut apprendre aux enfants. Il faut leur apprendre aussi quand vous êtes un lokélé, apprenez aux enfants les lokélés aussi. Ça leur aidera aussi dans la vie. Il faut apprendre aux enfants les kimbuza et tout ça, mais pas seulement les choses. Et après, ils vont évoluer puisque les français, ils apprendront à l'école, donc ils approfondiront. Moi, je trouve que les Ouest-Africains sur ce terrain-là sont beaucoup mieux lotis que nous. Quand les Ouest-Africains arrivent dans des pays étrangers, sont par exemple en France, pour ceux que je connais, à la maison, ils parlent à leurs enfants que dans leur langue. Et les enfants, ils connaissent, même s'ils sont nés en France, ils connaissent leur langue et leur culture. Et quand ils vont à l'école, ils apprennent maintenant le français. Mais maintenant, chez nous, les Congolais, pour la plupart, c'est que quand on arrive en France, les enfants, on leur parle que français. Et du coup, nos enfants,
ils connaissent pas leur.
Ils perdent les lingala, ils perdent les tuluba, ils perdent le kikongo, ils perdent le kimbuza, et voilà, c'est ça.
Bien, on va prendre une autre série de questions dans la salle au Capi Service.
Au Capi.
Nous sommes en direct de l'Alliance française de Kisangani. Boyoma Singa Mwambi, et nous parlons aujourd'hui de la francophonie. Quelles sont les opportunités que la francophonie offre à la population congolaise, à la jeunesse en particulier? Bonjour monsieur.
Bonjour, c'est François Lemba de la société civile. Ma question va tout droit au professeur Alphonse et le directeur de la FRACO. À l'époque, nous, quand nous étions encore enfants, on nous a enseigné Mutu Nasamaki. Cette récitation-là est restée dans la tête de plusieurs personnes.
Mutu Yasamaki.
Mutu Nasamaki.
L'homme et le poisson.
L'homme et le poisson. Ok, voilà. Je pensais que c'est la tête du poisson.
Alors, je me dis, quelles leçons pourrons-nous tirer de ceux qui ont étudié Mutu Nasamaki et ceux qui ont ou qui étudient actuellement dans l'enseignement des bases en français?
Et en passant, la récitation-là, qu'est-ce qu'on disait dedans?
Maman Nick.
Non, mais moi, j'ai jamais étudié cette récitation-là. j'ai appris les récitations à lingala, mais pas en swahili.
Ah, ok.
En tout cas, le prof veut m'aider.
Et c'est quoi le contenu de cette récitation-là?
Je pense que c'est...
L'homme a mangé le poisson.
L'homme et le poisson.
Oui.
Le pêcheur.
Oui.
Il est allé pêcher. Et le poisson lui a demandé... En swahili.
Ah, il faut le dire en swahili. En swahili. Mutu Nasamaki.
Bon, je me présente d'abord, c'est Prince héritier Isomela Bedi. La récitation, on récitait ça comme ça. Mutu Nasamaki. Mutu Alienda Kuwa Samak. Akaipata. Bon, je m'arrête là parce que ça fait déjà.
Akaipata Mumonja Kidoko Sam.
Mais qui connaît le reste?
Bon. Alors, hein? Je crois que je peux les aider.
Bon, un instant, professeur va vous aider.
En fait, l'homme est allé pêcher.
Oui.
Et il a trouvé un tout petit poisson.
Hein? Un instant, professeur est en train d'expliquer.
Oui. Non, parce que Jordi ne comprend pas le swahili, je lui explique d'abord.
En français,
je vais vous dire en swahili. Voilà. Donc, le pêcheur est allé, il a trouvé un tout petit poisson, un menhir fêtant. Et il l'a pris. Et le petit poisson lui a dit, s'il te plaît, ne m'amène pas, ne mange pas. Laisse-moi d'abord, renvoie-moi dans l'eau, laisse-moi grandir. Après, vous reviendrez pour me chercher.
Ouais.
Alors, c'est ça un peu l'histoire.
C'était ça l'histoire. Merci beaucoup. On va donner la parole. Bonjour, monsieur.
Merci. Moi, c'est Norbert Lussing Lissoulé. Je suis politologue.
OK.
Je vais revenir par rapport à la diversité, à la diversité culturelle. Je crois que le prof Maindo nous a enseigné le colonialisme. Il nous a dit que le colonialisme est venu avec le fouet. C'est ce qu'il nous a dit. Moi, quand j'ai étudié à l'école primaire, je crois qu'il y avait un truc là. Une fois vous parlez à Swahili ou à Lingala, on vous donne un jeton. Les jetons là symbolisaient déjà les fouets. Parce qu'à la fin, on va vous fouetter. Parce que vous avez dit à Swahili. Je ne sais pas si les professeurs aussi, le cas lui est arrivé. Une fois vous parlez à Swahili ou à Lingala,
vous avez le jeton.
On vous donne un jeton.
Et vous
aussi, vous cherchez quelqu'un qui va dire à Swahili, vous lui donnez un jeton. Et les jetons circulaient. Et je crois, j'ai lui-même.
Et finalement, c'était toute la classe qui était fouettée.
C'est que on cherchait la personne qui va parler la langue locale. Là, vous lui donnez les jetons. Et à la fin, on va vous demander, vous, qui vous a donné les jetons? C'est Madame Niki. Et Madame Niki aussi, qui vous a donné? C'est ça, la chaîne là, on suivait pour fouetter les gens. Et je ne sais pas si, parce que les profs aussi, prof Maindo, j'ai lu aussi un de ses ouvrages. Il a parlé de Fimbo Yaoudinga. Il y a Fimbo Yaoudinga. C'est que le fouet de l'ignorance. Il y a un de ces livres là où il y a
c'est que oui, Fimbo Yaoudinga. C'est pas un fouet physique. Hein?
C'est que le fouet de l'ignorance.
D'accord. Alors,
la question que je voudrais poser.
D'accord.
Est-ce que le fouet que nous recevons à l'école, c'était les fouets, parce que le colonialisme était passé, je ne sais pas si c'est le néocolonialisme ou c'était tout simplement les fouets, c'est que Fimbo Yaoudinga, autrement dit, les fouets de l'ignorance. Merci.
Merci beaucoup. Le suivant. On encourage aussi les dames à prendre la parole, à poser des questions. Ça fait une éternité. Le micro va revenir ici.
Merci beaucoup. C'est Monsieur Olivier Maloba.
Oui, Monsieur Olivier.
Opérateur culturel à Kisangani.
Okay.
Je pense que Monsieur le docteur Augustin, non, Sébastien n'a pas donné une explication satisfaisante en rapport à ce passage de l'Alliance française à l'Institut français. Et que actuellement, est-ce que c'est l'Alliance française ou c'est l'Alliance franco-congolaise? Parce qu'il y a une différence entre l'Alliance française et ce que nous connaissons tous ici, la FRACO. Et je pose maintenant ma question, docteur Augustin, docteur Sébastien, quelle est l'opportunité pour nous, opérateurs culturels, pour nous, artistes, par rapport à ces institutions? Alliance française, Institut français ou Alliance franco-congolaise. Parce que je pense qu'il faudra beaucoup plus amener des opportunités dans la ville pour
vous,
que...
Vous êtes opérateur culturel dans quel secteur?
Je suis multidisciplinaire, mais beaucoup plus dans le théâtre.
Dans le théâtre?
Oui.
D'accord.
Et je pense qu'il fallait... L'Institut français donne beaucoup plus d'opportunités dans la culture et que l'Alliance française, il n'y a qu'à Kisangani, nulle part en RDC. Et l'Institut français de Goma est venu après nous ici. Et l'Institut français de Goma est locataire. Même l'Institut français de Bukavu est locataire. Nous, nous avons notre bâtiment. Et on ne veut pas nous donner cette opportunité. Je pense qu'il faudra un peu nous éclairer là-dessus. Je reviens par rapport au professeur Maindo. Aussi, c'est la même chose avec l'Alliance française. Ils font la promotion de la langue française. Et actuellement, nous sommes beaucoup plus dominés par le français. Il y a la guerre à l'Est. C'est les Français. Il ne faut pas se cacher les choses. Et aujourd'hui, il y a ce sommet de la francophonie. Notre président Fatshi est là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne faut pas encourager le mal qui vous ronge et puis vous venez faire cette promotion-là de ces mêmes Français. Hein? Il ne s'est pas à cacher. Ils sont en train de soutenir nos ennemis et nous, nous continuons encore à faire la promotion de la langue française, nous continuons à faire la promotion de la culture française. Le professeur a dit qu'on ne mange pas et on ne mange pas le fromage ou les baguettes. Excusez-moi, docteur, nous, nous mangeons notre mollet à Kisangani et nous en sommes très fiers. Mais les Français, aïe, ils nous emmerdent. Hein?
La dernière question pour terminer cette première partie. Docteur, vous allez répondre et puis on va clôturer avec le professeur. Est-ce qu'on peut créer, innover et entreprendre en français? Et comment le faire? Si oui.
Je voudrais peut-être compléter le professeur en disant que le français comme langue, il ne faut pas faire la différence entre les Français comme peuple. Les gens, ils estiment que non, voici, ce sont les peuples français qui sont derrière ça. Mais au sein de la francophonie, nous, la RDC, nous nous sommes en train de prôner plutôt les valeurs autour de la langue, leur langue tout simplement, et non les peuples français. Mais les Français comme langue, ça reste en tout cas la langue officielle en RDC. Et les deux langues ne sont pas antagonistes, il n'y a pas antagonisme compétitif là-dessus, mais c'est plutôt une logique de coopération. Les deux langues peuvent cohabiter, on peut être polyglotte, c'est une valeur ajoutée pour soi-même. On peut maîtriser à la fois les Français, l'anglais, il n'y a pas de souci.
Merci. Alors, docteur. Merci docteur. Professeur, on va clôturer avec vous, professeur Sébastien, Alphonse Maindo. Je disais, est-ce qu'on peut créer...
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je voudrais tout de suite vous dire que le français, c'est la troisième langue mondiale des affaires. Donc, il ne faut pas sous-estimer le français. Et vous voyez les entreprises françaises, notamment les start-up pour tout ce qui est nouvelles technologies et autres, sont quand même en train de se distinguer aussi. Donc, il y a possibilité d'innover. Et je voudrais dire aussi que sur Internet, par exemple, la quatrième langue qui est utilisée par les internautes, c'est le français. Et donc, ça veut dire quoi? Vous pouvez créer votre entreprise comme les gens qui font maintenant les influenceurs et autres pour écouler vos biens en français. Et vous allez avoir du public puisque c'est la quatrième langue utilisée par les internautes. Et en plus du fait que dans les affaires, vous avez donc ces troisième langue dans le monde des affaires. Donc, il y a possibilité de penser et d'innover et de développer les affaires et l'entrepreneuriat à travers la langue française. Maintenant, nous avons un problème aujourd'hui avec la Chine, voyez-vous, qui est devenue le deuxième, ou si pas la première puissance économique mondiale, et donc beaucoup, et avec des produits qui peuvent être beaucoup moins chers que les produits occidentaux, dont les produits français. Donc la tendance des gens, c'est d'essayer d'aller plutôt faire les affaires avec la Chine plutôt qu'avec l'Europe ou l'Occident de manière générale. Mais quand il s'agit pas ici de faire seulement les affaires en tant que commerce, il s'agit ici de faire de l'industrialisation, de faire de l'innovation et de la recherche. Et il y a tout un grand réseau, je vous ai dit ici, réseau d'universitaires francophones, l'AUF, et qui comprend au moins 1100 établissements d'enseignement supérieur universitaire, avec des centres de recherche que j'ai pas mis ici. Et donc on a là un réseau très important, voyez-vous, qui part du Canada, de la France, de l'Afrique et tout ça, et qui permet de pouvoir faire des échanges et de s'enrichir pour mieux développer nos affaires. Et je pense qu'il est possible de le
bien.
Faire.
Bien. Merci beaucoup, professeur Alphonse Maindo. Est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort pour son intervention? Il est enseignant à la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'UNIKIS. Bon, on n'a plus beaucoup de temps. Nous disons aussi merci à Dr. Sébastien Elongo, qui est le directeur de l'Alliance française. Est-ce qu'on peut l'encourager en applaudissant très, très fort? Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même très, très, très fort? Bien. On clôture ainsi la première partie de cette émission. On va juste suivre les informations. Et juste après, on revient pour parler des routes, pour parler de l'importance de la RN4, la route qui relie Kisangani à Bunia, qu'est-ce qu'il faut pour la réhabiliter, etc.